Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Chindali Kabala.
Lettre ouverte de Denis Mukwege, le prix Nobel appelle Tshisekedi à placer paix et justice au cœur des priorités. Le médecin dénonce la crise sécuritaire persistante et met en garde contre toute révision de la Constitution. Ituri, un élu, met en garde contre une réforme en pleine guerre. Daniel Fourahahouma, député national et membre de l'Union sacrée, souligne les risques d'exclure une partie des Congolais au processus. La priorité, selon lui, devrait être le rétablissement de l'autorité de l'État. Fonction publique, un rapport pointe l'injustice salariale en RDC. Le consortium Congo n'est pas à vendre, appelle à une harmonisation pour réduire les tensions. Invité des Radio Kapi, les coordonnateurs de cette structure, Dirk Chaka, explique que cette étude met en évidence l'absence d'harmonisation salariale entre les différentes administrations publiques. D'abord, cette information, mesdames et messieurs, le chef de l'État a signé 3 ordonnances rendues publiques hier soir à la RTNC. La première porte sur la création d'une task force d'assainissement de la ville de Kinshasa placée directement sous sa tutelle. La deuxième concerne la Banque centrale du Congo. André Wameso est nommé gouverneur tandis que Madame Musengezi et Jean-Marcel Kaloubi Kayembe deviennent vice-gouverneurs. Enfin, la troisième officialise l'investiture du gouverneur et vice-gouverneur du Sankuru, Lodi et Mongo, Jules et Motomoke Charles. Ces ordonnances ont été signées le 29 juin et rendues publiques le 30 juin 2026 à la Radio-Télévision nationale congolaise. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal parlé du matin. En ces jours de célébration de l'indépendance, une voix dissonante s'élève dans les débats nationaux. Le docteur Denis Mukwege a adressé une lettre ouverte au président Félix-Antoine Tshisekedi, un texte particulièrement critique dans lequel il dresse un bilan sévère de la gouvernance depuis 2019. Publié ce 30 juin, le document évoque la crise sécuritaire persistante dans l'est du pays, la gestion de l'état de siège, les choix diplomatiques du gouvernement, la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que les questions liées à la souveraineté nationale. Le prix Nobel de la paix appelle le chef de l'État à préserver l'unité du pays, à ne pas toucher à la Constitution et à placer la paix, la justice et la protection des populations au cœur des priorités nationales. Les détails avec Gisèle Cage.
Le docteur Denis Mukwege affirme qu'il n'y a, selon lui, rien à célébrer, estimant que la RDC traverse une crise profonde marquée par l'insécurité, les souffrances des populations et les menaces qui pèsent sur l'intégrité du territoire national. Le prix Nobel de la paix revient sur plusieurs décisions prises depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État en 2019. Il critique notamment la gestion de l'état de siège, la politique sécuritaire menée dans l'est du pays, ainsi que certaines orientations diplomatique engagée avec des partenaires régionaux et internationaux. Dans cette lettre ouverte, Denis Mukwege déplore également l'absence, selon lui, d'avancées significatives dans la lutte contre l'impunité. L'ancien candidat à la présidentielle s'inquiète par ailleurs de ce qu'il qualifie de risque pour la souveraineté nationale et appelle le chef de l'État à privilégier la restauration de la paix, la protection des civils, le renforcement de l'état de droit et l'amélioration de la gouvernance. Enfin, Denis Mukwege exhorte Félix Tshisekedi à ne pas engager de processus de révision constitutionnelle et à saisir, je cite, « cette dernière chance pour remettre le pays sur la voie d'une sortie de crise durable ».
Dans le même ordre d'idées, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi prône la cohésion et le vivre ensemble. Il appelle également à un dialogue inclusif qu'il considère comme incontournable pour bâtir une paix durable en République démocratique du Congo. Monseigneur Fulgence Muteba s'est exprimé ce mardi au cours de son homélie à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du pays. Ses propos sont recueillis par Paul Mounanga.
Ce 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays est une occasion pour faire un examen de conscience et une prise de responsabilité collective pour inaugurer une nouvelle ère de l'histoire de notre pays. Mais pour y parvenir, il faut d'abord que nous puissions nous rendre compte que nous avons failli dans beaucoup de domaines. Cependant, ce n'est pas une fatalité et il n'est pas encore tard. Notre pays a suffisamment d'atouts, de ressources humaines et naturelles pour qu'il devienne une grande nation au cœur du continent. Bien sûr, la condition, c'est que nous puissions prendre conscience que ça ne va pas, mais pas dans tous les domaines quand même. Il faut que nous puissions, comme on dit, changer le fusil d'épaule. Pour nous en sortir, il nous faut un consensus pour construire une paix durable. Il faut nous pardonner, il faut nous réconcilier, il faut consolider notre cohésion nationale sur base de la philosophie du vivre ensemble. Un dialogue inclusif et incontournable. Si nous n'empruntons pas ce chemin, grand est le risque d'aller jusqu'à perdre ce pays.
L'indépendance doit être pour l'Ituri le moment de tourner la page de la division, de la haine, des violences qui ont longtemps endeuillé cette province. C'est le message du nouveau gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 30 juin à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Selon lui, cette commémoration invite tous les Ituriens à bâtir ensemble une province réconciliée où chaque communauté aura sa place dans le respect mutuel, la solidarité et les vivre ensemble. Marcel Kizabiamongo.
Dans son adresse à l'occasion du 30 juin, le gouverneur de l'Ituri, le général Gabi Kasongo Moulumba, dit être investi d'une mission, le rétablissement total de la paix, la protection des populations, le renforcement de l'autorité de l'État, la cohésion nationale et le développement durable. Crise humanitaire oblige. Le général Gabi Moulumba Kasongo insiste par ailleurs sur la participation active de tout et chacun dans la lutte contre la maladie à virus d'Ebola, notamment en respectant les mesures sanitaires mise en place. Enfin, il lance un appel aux Ituriens et Ituriennes à préserver les acquis du développement afin d'offrir aux générations présentes et futures une Ituri prospère et harmonieuse. Avant de conclure, son adresse à la population par ses messages d'espoir. Les défis auxquels nous faisons face ne sont pas une fatalité. Avec l'engagement de chacun, demain sera meilleur. Fin de citation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Martin Fayulu Madidi a rendu hommage aux victimes de la guerre d'agression rwandaise dans l'est du pays. Le président du parti SID a exprimé sa compassion ce mardi 30 juin lors d'une déclaration devant les médias à Kinshasa. Il a insisté sur le respect de l'intégrité territoriale de la République ainsi que sur des valeurs cardinales telles que la paix, l'éducation et la création d'emplois. À cette occasion, l'opposant a également réaffirmé son rejet du projet des changements ou de révision de la Constitution. On écoute Martin Fayulu dans cet extrait proposé par Blaise Ndongala Mayanda.
À l'heure de l'intelligence artificielle et de la conquête spatiale, nous ne pouvons plus nous permettre de rester en marge du monde moderne. Nous devons avoir le sens des priorités, restaurer la paix, défendre l'intégrité territoriale, lutter contre la corruption, créer des emplois, garantir l'accès à l'éducation de qualité, aux soins, à l'eau et à l'électricité. Voilà ce qu'attend le peuple congolais. C'est dans cet esprit que je réaffirme mon opposition ferme au projet de changement de la Constitution du 18 février 2006, car elle constitue le socle de notre pacte républicain. S'engager dans une telle aventure, alors que des pans entiers de notre pays sont sous occupations étrangères, c'est offrir des arguments aux sécessionnistes et ouvrir la voie à la balkanisation. Notre pays n'a jamais eu un problème de texte. Il a toujours eu un problème d'homme.
66 ans après l'indépendance, nos minerais continuent d'être exploités alors que la population vit toujours dans la misère. C'est le cri du cœur lancé ce mardi 30 juin par des jeunes de Beni, au Nord Kivu, membres de mouvements citoyens. À travers des pancartes placées le long du boulevard Nyamwisi, ils dénoncent une gestion inéquitable des revenus issus de l'exploitation minière qu'ils estiment profiter à une minorité au détriment de la population. Ces jeunes appellent à une prise de conscience conscience collective et exhorte les dirigeants à garantir une gestion plus juste des richesses nationales au bénéfice de tous les Congolais. Jacques Sinzaera, l'un d'eux, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Aujourd'hui, notre pays, qui est une puissance hydraulique mondiale, deuxième après le Brésil, c'est la population qui encore n'a pas d'accès à l'eau, n'a pas d'accès à l'électricité, et on se pose la question, est-ce que c'est le problème de la colonisation ou c'est le problème de la mauvaise gouvernance? Les dirigeants qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont conscience que leur mission n'est pas d'enrichir leur famille, mais plutôt de relever les défis sociaux du peuple congolais. Il y a plus de 50 entreprises minières qui payent la redevance minière conformément au code minier de 2018. Malheureusement, cet argent est partagé entre un club d'amis. Ça veut dire que les Congolais subissent une deuxième vague de colonisation, pas par le blanc, mais par nos propres frères congolais. Et voilà pourquoi on dit aux Congolais de nous lever comme un seul homme contre cette nouvelle manière de colonisation que nos grands-parents se sont bâtis contre les blancs, et nous, on n'est pas capable de se battre contre nos propres frères noirs qui ont transformé la gouvernance à une forme de colonisation. Avant, les Kenyans venaient se faire soigner à Mamayemo, les Tanzaniens, les Sud-Africains, mais aujourd'hui, il n'y a pas match. Le Congo, c'est un calvaire. Nous passons, il est temps de prendre conscience et de rendre fiers les combats de Lumumba.
Peut-on engager une réforme constitutionnelle alors que l'Est du pays continue de vivre au rythme de la guerre et des déplacements des populations? C'est la question soulevée par le député national Daniel Fouraha Houma. Selon lui, une telle démarche risquerait d'exposer davantage la nation à des tensions et de priver une partie des Congolais de leur participation à un débat aussi déterminant. Dans une lettre ouverte adressée ce lundi au président Félix-Antoine Tshisekedi, l'élu de Mahagi Yanni Touri et membre de l'Union sacrée de la Nation appelle à faire du rétablissement de la paix, de l'autorité de l'État, de l'intégrité territoriale ainsi que de la consolidation d'un climat de confiance les préalables à toute réforme de la Constitution. Pour lui, ces conditions permettraient de garantir la crédibilité du processus, l'inclusivité du débat et la légitimité populaire de toute réforme institutionnelle. On écoute Daniel Fouaha dans ce propos recueilli par Grace Hamzati.
Comment organiser une campagne de débat démocratique dans un contexte de guerre, d'insécurité, où les populations vivent en errance et dans des cas de déplacés? Comment demander à un citoyen de se concentrer sur les choix constitutionnels abstraits, alors que sa priorité consiste à échapper à des balles, à trouver à manger dans des camps de déplacés? Je rappelle ici qu'une constitution n'est pas juste des articles de loi sur le papier. C'est un pacte de vivre ensemble, un contrat social. Dans ce contexte, si nous qui sommes à Kinshasa décidons dans nos bureaux climatisés d'avancer sur cette voie, ça risque de devenir un arrangement entre ceux qui sont en sécurité. Donc, il s'agit ici, le bon sens l'exige d'ailleurs, de la responsabilité d'un homme d'État face à la génération présente et future.
Province du Kwilu, avant d'aller plus loin, le directeur exécutif de l'ONG Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, Ronstein Manketa, a échangé ce mardi 30 juin à Bandundouville avec les membres du réseau provincial des défenseurs des droits humains du Kwilu. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du suivi et de l'évaluation des activités menées par ce réseau qui regroupe 11 organisations engagées dans la promotion et la protection des droits humains à travers la province. Au cours des discussions, Ronstein Manketa a exhorter les activistes à renforcer leur engagement au sein de leur structure et à travailler davantage pour l'intérêt communautaire. On écoute Ronstein Manketa dans ses propos recueillis par Jean-Claude Tangamo.
J'ai de très belles impressions de la ville de Bandundu en ce qui concerne le dialogue permanent qui existe entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités provinciales, locales. Ça, c'est vraiment une très très belle note pour moi. Et j'encourage les acteurs de la société civile à rester en contact permanent avec les autorités, à privilégier les dialogues sur toutes les questions concernant la situation des droits de l'homme dans la province. Je pense que c'est l'une des provinces, si pas la seule, où, par exemple, le phénomène banditisme urbain a été très bien maîtrisé par les autorités. Coup de chapeau à toutes les autorités, à la police, au service de sécurité, à toutes les autorités de la province. Ça, c'est vraiment des belles impressions que j'ai. Et aussi, en parlant de desk, écoutez, Bandundu fait partie des exceptions. Vous voyez, par exemple, le droit d'accès à l'électricité. l'électricité, les droits d'accès à l'eau potable. Depuis que nous sommes arrivés ici, il n'y a pas de coupure d'électricité. Je crois que le travail que nous faisons en tant que défenseurs des droits humains, c'est un travail qui nous oblige à travailler ensemble avec les autorités.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, l'Iran a annoncé l'envoi d'une délégation à Doha mardi 30 juin pour des rencontres techniques sans négociation directe avec les camps adverses. De son côté, Washington a fait savoir que les émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient sur place cette semaine pour participer à des réunions de haut niveau. Si l'Iran dément toute réunion avec les Américains, la République islamique affirme qu'elle tiendra sans doute le 1er juillet des discussions au Qatar concernant ses avoirs gelés.
L'invité.
À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le consortium Congo n'est pas à vendre a présenté son étude sur les disparités de rémunération entre les agents publics de l'État. Invité des Radio Capi, le coordonnateur de cette structure, Dirk Charka, explique que cette enquête met en évidence l'absence d'harmonisation salariale entre les différentes administrations publiques. Elle révèle des écarts significatifs dans les traitements et paiements des primes entre agents, une situation qui alimente frustration et incompréhension. Dirk Charka s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Dirk Charka.
Bonjour cher Blaise.
En marge du 66e indépendance de la RDC, les consortiums Congo n'est pas à vendre a présenté une note d'analyse sur disparité des rémunérations des agents publics de l'État en RDC. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette activité?
Cette étude a pour objet de poser un aperçu sur le cadre légal et réglementaire sur la rémunération de l'agent public de l'État en RDC. Elle procède aussi à une analyse approfondie de la gouvernance budgétaire qui met l'accent sur les disparités des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État ainsi que le train de vie très élevé des juridictions politiques.
Quel a été votre constat que nous pouvons retrouver dans cette étude?
Le constat majeur est que cette analyse permet de poser des bases sur le contraste qui existe entre les rémunérations de l'État, les primes de certains agents et le niveau injuste de cette répartition. Cela, par exemple, a été démontré au travers les chiffres. La première chose, c'est que la rémunération initiale de base des agents publics, elle varie entre 240 720 francs pour un huissier à 390 439 francs pour un secrétaire général. Et tout en sachant que pour les mandataires publics, la rémunération varie entre de 11 150 dollars à 32 000 dollars. Et cela sans prendre en compte les autres avantages que ces institutions se donnent. Et nous avons vu par exemple que pour l'enseignement supérieur et universitaire, pour ne prendre que cet exemple, cette rémunération varie entre 272 024 francs pour les agents de bureau de deuxième classe à 4 406 000 francs pour les professeurs d'université. Cette tension de base est de 1 à 1,29%, tandis que la proportion de la prime par rapport au traitement de base varie de 87% à 1000 quelques pourcents. Ce qui veut dire que en réalité, l'argent public de l'État, le huissier, a moins de 100 dollars de salaire mensuel, tandis que le secrétaire général a, lui, pour sa part, un salaire de plus ou moins 150 dollars. La question de primes aussi a été analysée dans cette étude qui a démontré que les primes sont extrêmement variées, volatiles aussi, mais consacrent cette disparité de manière très grave, sachant que certains agents de l'État peuvent avoir des primes allant jusqu'à 50 000 dollars ou 40 000 selon leur position, leur fonction, leur influence par rapport à l'accès aux ressources publiques et aux finances publiques, tandis que d'autres agents ont moins de 200 dollars ou de primes mensuelles.
Quel est selon vous l'impact négatif de cette disparité salariale sur les plans socio-économiques?
Ce manque de transparence entretenu sur les rémunérations démontre qu'il y a des fortes inégalités dans les répartitions des revenus publics entre les fonctionnaires de l'État et dans les institutions publiques, gouvernementales et les services publics. C'est qui ouvre la porte aux rémunérations indues, aux tendances à l'auto-rémunération ou alors à la corruption, mais aussi entraîne de graves impacts sur l'incapacité des services publics à rendre service aux citoyens, mais aussi sur le plan social, la précarité, le manque de dignité dans la vie de certains agents publics qui n'ont pas accès aux ressources. On connaît aussi la misère dans laquelle la plupart des agents qui n'ont pas accès à ces ressources, qui ne peuvent pas avoir accès aux ressources publiques, vivent.
Estimez-vous que cette étude pourra changer la donne sur terrain?
Nous espérons qu'en travaillant avec les syndicats, avec les ministères concernés, les ministères de la fonction publique, avec le ministère du budget et des finances, l'Assemblée nationale, au travers aussi sa commission économico-financière, nous pensons que cette question peut faire l'objet d'améliorations conséquentes. Nous avons appris d'ailleurs dans les discussions que nous avons eues, une discussion avait déjà eu lieu entre les syndicats et les ministères de la fonction publique pour pouvoir mettre à jour un cadre de rémunération qui tiendrait au minimum compte de l'évolution des besoins, des bases des agents, sachant que l'accord de Mboudi de 2004 qui a été revu en 2006 n'a jamais été appliqué à ce jour. Et donc notre plaidoyer, c'est de pouvoir effectivement changer cette situation, faire que le gouvernement prenne en main la question des inégalités salariales et des disparités et d'y travailler de manière conséquente afin que l'agent public puisse être payé de manière conséquente, de manière à assurer la dignité minimale.
Messieurs Dirk Chaka, nous vous disons merci.
C'était notre invité Dirk Chaka, le coordonnateur du consortium Congo n'est pas à vendre, qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à ce journal par les coordonnées et supervisé par Jude Mister Bilandankuma et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Vous pouvez continuer à réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.